Les siècles qu'on les connaît, déjà dans notre passé éternel, on les connaissait déjà. Hein? Et on est content de l'avoir avec nous aujourd'hui pour mon anniversaire. C'est vraiment un beau cadeau. Hein? J'ai des beaux cadeaux cette année aussi. Et que Dieu te bénisse, mon frère Alex. Il a quelque chose à nous dire. On est tout triste que son épouse n'est pas là, mais je crois que la prochaine fois, c'est nous tous qui allons nous déplacer là-bas. Ça serait bien, hein? Alex, à toi.
Bonjour chers frères et sœurs, un bonjour chaleureux et ensoleillé de Madagascar. Et voici mon fils Ilan, que j'amène, qui était venu au château quand il avait 1 an, en 2003. Ben voilà, c'est mon grand-fils maintenant qui a presque 11 ans. Tu veux dire un petit mot Ilan?
Bon ben, je veux vous dire bonjour à vous tous, mes frères et sœurs, et je suis très content d'être au château et je vous transmets toutes les salutations de ma famille qui vit à Madagascar.
Merci. Merci. Génial. Oui, comme le dit le frère Michel, bien. C'est une longue histoire au château et vous êtes ma famille. Et je vous avoue que bon, bah, ça fait maintenant plus de 10 ans avec toute ma famille que nous sommes en mission à Madagascar, en brousse en plus, enfin en partie dans la ville de Tananarive et puis l'autre partie en brousse. Et bien, j'aime bien venir de temps en temps en Europe, surtout pour faire quelques petits achats. Mais j'arrive pas à rester trop longtemps en France, pas plus de 20 jours en tout cas. Il faut que je retourne sur le terrain missionnaire. Par contre, je ne peux pas manquer de venir au château, respirer une bonne bouffée d'oxygène du ciel, parce que frères et sœurs, vous qui vivez ici au château Sanctuary, à Lamblor, enfin non, je me trompe, c'est la commune d'à côté. Eh bien, bah, vous vivez avec l'atmosphère du ciel, avec l'atmosphère de l'amour de Dieu et fraternel. Et ça, je ne sais pas si vous en rendez suffisamment compte, mais je crois que oui. Mais en tout cas, moi qui viens de l'extérieur, si je passe 20 jours en France en apnée, j'ai besoin de prendre une bonne bouffée d'oxygène, de l'amour de Dieu parmi vous au château Sanctuary. Mais je crois que ça existe aussi, eh bien, là où les frères et sœurs sont en communion avec Christ et les uns les autres. Ils créent une bulle de l'atmosphère du ciel où ceux qui ont besoin de respirer la vie peuvent rencontrer Jésus et respirer le salut. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors effectivement, comme le disait mon fils Ilan, il est venu avec moi parce qu'il a un petit peu il a quelques contrôles de santé à faire. Mais sinon, il est en pleine forme. Eh bien, je vous transmets les salutations très chaleureuses de Hante à mon épouse qui bosse, et puis aussi de Maëva. Pour certains, vous vous souvenez de Maëva, n'est-ce pas? Sauf que maintenant elle fait 1m70 et qu'elle est la star de Tananarive, mais j'espère vivement que la prochaine fois, Anta et Maëva pourront venir parmi vous et se ressourcer. Donc je suis toujours évidemment super heureux de revenir parmi mes frères et sœurs et ma vraie famille en Christ. Ici, c'est vraiment une joie merveilleuse. La mission donc continue sur le terrain. Il y a tant à faire. Tant à faire. Il n'y a notre repos qu'en Christ, quand nous nous trouvons en lui. Et sinon, physiquement, ben, il faut y aller, il faut aller en mission. Hein. Et c'est le petit message, pas de 3 heures, mais de 3 minutes, que j'espère, enfin, que je voudrais vous transmettre de la part du Seigneur. N'oubliez pas, frères et sœurs, que dès que vous êtes converti, dès que vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus, et ça jusqu'à votre dernier souffle sur cette terre, vous êtes en mission. Vous êtes en mission de la part de Christ, vous n'êtes pas en vacances, et le Seigneur pourvoira absolument à tout ce que vous avez besoin, votre armure et tout le reste, pour accomplir votre mission dans la paix, dans la joie, dans la sérénité, dans la joie du combat. Alors effectivement, quand on est en mission de la part du Seigneur Jésus sur cette terre, on va pas faire joujou en se tirant des balles à blanc. Alors, nous ne nous étonnons pas de ce que nous avons des blessures dans notre vie, des balles réelles, des maladies, des choses comme ça, qui sont la résultante du combat que nous menons au cours de notre mission en Christ sur cette terre. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que chacune de vos blessures, c'est un insigne d'honneur devant la face de Dieu, devant les yeux de Jésus-Christ et devant la face des anges. Chacune de vos blessures qui a été reçue dans le cadre de votre mission, dans au cours de votre combat, c'est un insigne d'honneur de gloire. Vous vous souvenez de ce passage dans Apocalypse 3:20 où le Seigneur dit « À celui qui vaincra, il s'assoira avec moi sur le trône et il règnera avec moi. » Ben voilà, mais à celui qui vaincra. Donc, vous savez, qu'est-ce qu'il en résulte ? C'est que celui qui vaincra devra d'abord se battre, n'est-ce pas ? Et Dieu reconnaîtra ceux qui régneront avec lui, il y aura les autres, qu'il aimera tout autant, mais ceux qu'il reconnaîtra avec lui comme régnant avec lui, alors vous imaginez la dimension de l'univers, donc il y a de la place pour régner et pour étendre le royaume de Dieu, eh bien ce seront ceux qui auront participé au combat. Alors j'ai entendu depuis que je suis arrivé au château, eh bien des choses qui ne me sont pas inconnues, des frères et des sœurs qui souffrent, ou de maladies ou d'autres choses, mais vous êtes en Christ et vous participez aux souffrances de Christ au cours de ce combat, et qui sont autant d'insignes de gloire et qui seront votre crédit pour régner avec Dieu. Peut-être que je l'exprime mal, mais voilà, si vous le comprenez comme ça. Donc il n'y a pas à se désespérer. C'est vrai que nous pouvons prier pour la guérison, et c'est tout à fait logique et biblique, mais quelquefois le Seigneur permet ces souffrances, qu'elles soient morales ou physiques, avec toujours à la clé la victoire. Et il les permet pour que autant de blessures que nous puissions recevoir à la mesure de ce qu'il a lui prévu et non nous, sont des signes de gloire qui vont être une lumière pour l'éternité et qui vont être le, vous savez, comme quand vous voyez les généraux avec toutes leurs insignes, toutes leurs décorations, eh bien au ciel ce sera la marque de nos souffrances, des participations, de notre participation aux souffrances de Christ, qui seront autant de marques de gloire et qui nous donneront accès à ce règne. Donc prenez courage par rapport à cela. Vous êtes en mission sur la terre, pas en vacances. Nous sommes à la fin des temps, donc nous devons redoubler dans le combat. Mais quelle joie ! Quelle joie ! Nous ne pouvons pas participer à la vie chrétienne en Christ, juste avoir la joie de faire Alléluia et de communier entre frères et sœurs. C'est une étape. Mais une des plus grandes joies, c'est celle de participer au combat. Je dirais que ça s'assimile à peu près aux grands sportifs qui vont dans les championnats ou qui vont aux Jeux Olympiques, par exemple. Voilà, ils s'entraînent pendant 4 ans d'arrache-pied de façon extrêmement dure. Ils font abnégation de leur vie, de leurs loisirs, parce qu'ils ont une idée en tête, c'est d'aller sur le terrain et de se battre et de gagner une médaille, de gagner quelque chose. Et considérez que votre vie et votre marche en Jésus-Christ comme et à la fois cet entraînement, et à la fois ce combat, et à la fois cette joie de remporter des victoires en Christ, des victoires pour Christ. Voilà, donc j'ai cette joie, moi en tout cas, de l'avoir vécu, et de le vivre encore en famille à Madagascar. Rien n'est facile, comme pour ici, rien n'est facile, mais ne pleurez pas sur ça, ne vous apitoyez pas sur ça. Dites-vous que vous êtes en plein combat avec Jésus-Christ, qu'il vous fera gagner, même si vous devez passer par la mort, mais au ciel, vous régnerez avec lui. Et il y aura d'autres dimensions. Donc soyez bénis, continuez toujours votre mission, celle que, pour laquelle le Dieu vous a choisi, précieusement, intentionnellement, ici en France, là où il vous a établi. Gagnez des victoires avec lui, gardez votre joie, et nous nous retrouverons tous au ciel avec une grande fête merveilleuse et avec la joie d'avoir sauvé autant, sans trop le savoir parfois, mais d'avoir sauvé et emmené avec nous autant d'âmes au ciel. Et il faut bien que vous compreniez, j'ai ce message à passer particulièrement au papa, moi-même en tant que papa, ce que vous êtes, l'exemple que vous montrez, les paroles que vous transmettez à vos enfants, filles ou garçons, personne ne fera à votre place. Personne. Ça ne sera pas un père de substitution ou l'instituteur, le professeur ou d'autres pseudo-messagers. Ça sera vous, les papas, qui avez la charge de transmettre une éducation, de l'amour, un regard, un soutien qui construit la vie d'un petit homme ou d'un homme ou d'un futur homme ou d'une future femme, d'un citoyen ou d'une citoyenne du royaume des cieux. Et personne ne peut le remplacer. Surtout, s'il vous plaît, ne spoilez pas votre responsabilité de papa pour la place des super-héros de Avengers ou je ne sais trop quoi, ou de Pokémon ou d'autres choses comme ça. Beaucoup trop d'enfants sont éduqués avec la télé et des super-héros. Et ils ont une mauvaise image. Ils ont une image spoilée. Donc, on ne peut pas interdire à nos enfants de regarder certains dessins animés ou certains films. C'est divertissant. Mais par contre, votre présence, vos paroles, tout ce que vous transmettez à votre enfant, c'est crucial. Et personne ne le fera à votre place. Et merci Seigneur pour des serviteurs de Dieu également, que Dieu a envoyés, comme Michel, qui m'a transmis des paroles du Seigneur Jésus que nul autre pouvait me transmettre, et qui, à l'époque, en l'an 2000, ça fait déjà un bail, eh bien, a participé à la construction de ma propre identité chrétienne, à ce que je suis maintenant, aujourd'hui, en mission, à 10 000 km de la France. Et chacun de vous, vous avez cette responsabilité. Vous connaissez 1 Corinthiens 1,18. La prédication de la croix, de Jésus mort en croix, est une folie pour ceux qui se perdent. Mais elle est une puissance, et je regardais dans les différentes versions, elle est la puissance même de Dieu. La prédication de la croix est la puissance même de Dieu. Alors, je disais à mon fils, je ne sais pas si tu te rends compte, mais la puissance de Dieu fait briller le soleil et fait tourner la galaxie quand même. Donc, la puissance de la prédication est prime sur le mouvement des planètes. Et donc, nous avons cet insigne et infini honneur d'être doté d'une bouche, d'un cerveau et surtout du don du Saint-Esprit pour prêcher la croix. Je vous encourage à prêcher cet évangile, et la puissance même de Dieu vous traverse. Et aucune maladie ne résistera à ça. Aucun combat ne résistera à ça. Mais vous amènera à la victoire. Donc je vous encourage dans votre responsabilité. Le Seigneur est avec vous pour vous donner tout ce dont vous avez besoin pour y arriver. Même si vous n'êtes pas qualifié humainement parlant. Et la puissance agissante de Dieu qui ne vient pas de vous, mais qui vient du Dieu éternel, vous remplira. Et sera comme un parfum qui exhalera de vous. Enfin voilà, donc je ne m'étale pas, mais j'espère que parmi vous et parmi tous ceux qui écoutent au travers d'Internet, eh bien, vous recevrez ce message de Dieu pour être encouragés. Voilà. Que Dieu vous bénisse, et j'aurai toujours la joie, nous aurons toujours la joie d'être parmi vous.
C'est bien, ça fait plaisir. Gloire à Dieu. Bien, on ne va pas faire revenir les musiciens, on va les laisser tranquilles un moment. Je vous invite à vous lever et on va lire 2 Pierre 3,18. Prions d'abord. Nous te remercions Seigneur Jésus pour ce culte. Nous sommes là pour venir t'honorer, te glorifier, te bénir pour tout ce que tu nous as apporté jusqu'à ce jour. Je te remercie mon Dieu de m'avoir sauvé, voici maintenant 46 ans, ce fameux 1er juin, avec ton serviteur qui est venu fidèlement, Raphaël Duval, ce gitan, qui est venu fidèlement à Lausanne pour m'apporter ta parole. Merci mon Dieu, merci de ce que tu m'as appelé et que maintenant je peux délivrer le message que tu m'as donné. Je te bénis pour cela et je te prie que mes frères et sœurs qui sont ici, ceux qui vont regarder la vidéo, ceux qui vont écouter sur Internet, soient bénis et remplis de ton esprit, de sagesse, de force, d'amour, de puissance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te prie. Amen. Amen. On va lire 2 Pierre 3,18. Continuez à grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire dès maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen. De vous asseoir. On n'a jamais fini de grandir dans la connaissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. On n'a jamais fini. La connaissance augmente, c'est vrai, mais il faut que l'amour suive avec. Donc voilà, c'est là notre défi, de toujours trouver cet équilibre. Mais ce n'est pas parce que la connaissance augmente sans amour dans ce monde que nous devons renoncer à la connaissance. Nous devons recevoir ce que le Seigneur a à nous donner. Et comme je vous l'enseignais vendredi passé, il y a un conseil qui s'est tenu dès avant la fondation du monde. Je vous l'ai montré dans les Écritures. Pour ceux qui n'ont pas été écoutés encore le message, vous allez voir, c'est choc. Et dans ce conseil se réunit encore et nous pouvons avoir accès à ce conseil en esprit. Alors soit nous sommes enlevés en esprit dans ces lieux-là, ou alors nous sommes emmenés lors de notre sommeil, vous rappelez, je vous avais prêché ces choses-là aussi, ou alors nous pouvons avoir des visions, ou alors nous pouvons avoir des visitations d'anges, je crois dans le ministère des anges. Et recevoir le conseil de Dieu afin de pouvoir, nous avons vu dans la Bible, afin de pouvoir annoncer au peuple les alliances, pas les alliances, son alliance, l'alliance en son sang, mais qui elle-même est composée de plusieurs points. Vous vous rappelez, je vous ai enseigné ça vendredi, allez écouter, c'est très intéressant. Vous allez voir que nous avons été choisis pour quelque chose de très très grand. Moi, vous devez vous demander qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis. Avec Dominique, on était là-bas, alors je vais vous dire deux, trois petits mots. Un jour, je dis à Dominique, tu vois ce que c'est d'être conduit par Dieu pour tout. On était conduit par Dieu pour tout. Toutes les personnes qu'on a rencontrées, tous les endroits où nous sommes allés, c'était extraordinaire, c'était fantastique. J'ai pu aller donc à Fairmount avec Dominique. C'était la première étape pour remettre un buste que j'avais fait faire par mon ami Marino Manca, un buste de James Dean, et je voulais le remettre à son cousin. Maintenant, son cousin, le cousin de James Dean, qu'on peut voir sur les photos, dans les bouquins, tout ça. C'est un monsieur de 79 ans, c'est un paysan. Il a une ferme magnifique et il était très ému de recevoir cela. Il a dit que c'était la plus belle qu'il avait, le plus beau buste qu'il avait reçu. D'autres s'étaient amusés à en faire, mais c'est vrai que j'ai vu quelques photos, c'était pas génial. Mais celui-là, il était très beau. Et puis, on a pu parler, poser des questions pendant à peu près 2 heures. Et là, j'ai eu la confirmation de ce que j'avais lu très rapidement dans certains bouquins. Véritablement, cette famille est une famille chrétienne. James Dean lui-même était né de nouveau, réellement. On est allé là-bas à son église. Ce sont des Quakers. Et ce sont des gens très, je dirais pas austères, mais très réservés, très, très loin de... Par exemple, j'ai demandé, mais pourquoi la tombe est si minable, si petite, si insignifiante? Parce que chez les Quakers, tout ce qui élève la chair, tout ce qui glorifie, tout ça, c'est mal vu. Donc, les tombes des Quakers sont toutes simples dans les cimetières, des choses comme ça, vous voyez. C'était des gens tout simples, des gens de la campagne. Et il m'a bien assuré, il m'a dit non, non, c'était pas un rebelle comme les médias essaient de le faire croire, c'était un bon gars de la campagne qui avait un talent, sa maîtresse d'école s'en était aperçue, puis bon ben, avec le concours des circonstances, il a pu devenir l'acteur qu'il est devenu, mais c'était un enfant de Dieu. Moi ça me réjouit de savoir ça, ça me fait plaisir. Et on a rencontré le président de la, comment on peut appeler ça, du musée, oui c'est un musée hein, consacré à James Dean, et en parlant... je lui ai rendu témoignage, c'est inévitable. Et il m'a dit, ben moi je suis un ancien pasteur pentecôtiste. Alors on est tombés dans les bras l'un de l'autre, on était donc des frères. Alors c'était formidable, on a prié ensemble, c'était génial. Tout ça s'était traduit par une charmante dame qui est professeure de français là-bas à l'école de Fairmount. Et il m'a raconté son histoire, sa femme était une femme indigne qui l'a... qu'il l'a abandonné, et vous savez comment c'est chez les pentecôtistes, si un pasteur a une femme qui le trompe, le pasteur est rejeté. Hein, c'est arrivé à des amis comme Charlie Niles, que vous connaissez tous, ils sont vraiment terriblement cruels. Mais bon, voilà, il m'a dit, moi j'ai trouvé dans le Seigneur la force de pardonner ces gens, mais bon, je ne vais plus dans l'église pentecôtiste maintenant, alors qu'il va chez les Quakers. Et il m'a dit, mais je suis très content, ce sont des gens droits, des gens... honnêtes, des gens de la campagne, et des chrétiens de la campagne sont droits. Et on a passé vraiment un très très bon moment. Et puis alors là, la jeune femme qui traduisait tout, elle a dit, mais est-ce que vous accepteriez de venir parler dans mon école? Alors on a dit oui. Et on va jamais dire non, hein. Donc on est allé avec Dominique et puis on a pu rendre témoignage et raconter comment je me suis converti et les miracles avec Raphaël et toutes ces choses avec Jésus. Ils étaient stupéfaits. On a tendance à penser que les Américains sont tous surévangélisés. Ben non, pas du tout. Ils étaient ils étaient très étonnés, émerveillés. Enfin, et partout là où nous sommes allés, on a rencontré des chrétiens, on a rencontré des gens qui avaient besoin de Jésus. C'était même dans les magasins où on allait acheter des babioles pour les enfants. C'était la dame qui nous vendait. Elle a dit, mais tout de suite quand je vous ai vu, j'ai su que vous étiez pasteur. C'est incroyable. C'était une sœur en Christ. Enfin voilà, toutes des expériences comme ça. Et puis je vais pas vous raconter mes vacances parce que c'était quand même un temps de vacances, un temps de repos, et c'était pas très reposant hein, quand même Dominique hein. Non, il rigole hein, c'était pas très reposant, mais c'était intense, c'était magnifique, on s'est pas embêté 2 minutes et c'était tout à la gloire de Dieu. Alors ce matin, comme je vous disais, je fête mon, c'est combien, 44 ou 46 ans de conversion, 46 ans que Raphaël m'a emmené à Dieu. Fouh. Alors dans mon village, ils avaient dit ouais, c'est un feu de paille, ça va passer. Ben oui, hein, Dieu a dû rajouter de la paille parce que je suis encore là. Donc je vous parlais du conseil divin vendredi et je veux revenir là-dessus. Dans ce conseil divin, dès avant la fondation du monde, il a été décidé que les fils de Dieu viendraient habiter sur la terre dans des corps qui leur seraient prêtés pendant quelque temps. Les fils de Dieu, c'est qui ? Ben c'est nous. Nous sommes d'origine divine. C'est pourquoi Jésus dit « Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes ». Et nous sommes d'origine divine et nous étions auprès de Dieu, mais dans ce conseil divin, il y a eu donc des concertations et quelques-uns se sont révoltés et ils sont devenus ce qu'on appelle donc les mauvais esprits, qui sont soit sur cette terre, soit dans les régions célestes, hein, dans les lieux célestes, la Bible nous dit, et des dominations, des puissances, des autorités, ce sont des êtres qui sont, il y a toute une hiérarchie. Ils ne sont pas tous pareils. Hein. Il y a des êtres qui sont plus mauvais que le diable encore. Vous savez ça ? Vous pouvez lire ça dans la Bible. Et dans le corps que nous avons, nous connaissons bien des faiblesses. Mais c'était voulu. On le savait, on a joué le jeu, on est venu. On savait qu'on allait avoir des faiblesses. On savait que ça allait être difficile. On savait très bien. Mais en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu soumis déjà là-haut, avant la création du monde... Eh bien, nous nous sommes présentés pour venir sur cette terre, vivre cette expérience de la mortalité, pour glorifier Dieu dans notre corps. Et Dieu savait, et je dirais même que Dieu voulait, que nous ne réussissions pas à passer victorieusement toutes les épreuves. C'est bizarre ça, hein ? Mais regardez, lisez attentivement les Écritures. Trouvez-moi un homme parfait à part Jésus. Trouvez-moi une femme parfaite à part Jésus. Dieu veut tirer la gloire de tout. C'est même Moïse qui avait été extraordinaire, il a fallu que Dieu y trouve un petit truc pour l'empêcher de rentrer dans la terre d'Israël. C'est quand même terrible. Dieu veut, voilà, c'est lui, sainteté à l'Éternel. Amen. Je crois qu'on écrira ça sur notre temple. Sainteté à l'Éternel. C'est pas nous. Nous sanctifions, nous profitons de la sainteté qu'il nous a acquise à la croix pour pouvoir continuer, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Mais nous avons bien conscience de nos imperfections. Il savait et il voulait même que nous désobéissions. C'est terrible à dire, et que nous enfoncions plutôt que nous nous élevions. Il savait et il voulait même que nous reculions plutôt que nous avancions. Je ne dis pas que c'est ce qu'il veut pour vous maintenant. Je disais qu'au départ, Dieu a voulu que l'humanité tombe. Et pourquoi est-ce qu'il voulait que l'humanité tombe? Pourquoi est-ce qu'il voulait que l'humanité soit perdue? Parce qu'il voulait manifester son pouvoir de sauveur. Si Dieu n'était pas dans la possibilité de manifester son pouvoir de sauveur, il n'aurait pas été totalement complet. Il fallait qu'il soit dans la possibilité de sauver. Mais comment sauver si rien n'est perdu? Comment guérir si rien n'est malade? Comment pourvoir s'il n'y a pas besoin? Dieu est tout cela. Il a voulu que nous nous trouvions dans cette situation, et c'est pas lui tout seul. Nous en avons parlé dans le conseil de Dieu avant la création du monde. Je vous donne tous les textes dans la Bible, dans la prédication de vendredi. Allez écouter ça, c'est très intéressant. Et si vous n'avez pas le code pour écouter les prédications du vendredi, demandez-les, vous les aurez, il n'y a pas de problème. Voyez, mes frères et sœurs, c'est important de connaître. La connaissance est une chose importante. Faute de connaissance, le peuple périt. Et quand nous allons à gauche, à droite, dans les églises, nous voyons tellement d'incertitudes. Les gens ne connaissent pas le plan de Dieu pour leur vie. Ils comprennent pas ce qui leur arrive. Ils sont dans le flou. C'est même pas un flou artistique. C'est un flou cauchemardesque. Nous devons avoir la connaissance du pourquoi des choses. Et Dieu nous met au courant. Mais il ne met au courant que ceux qui sont avec un cœur droit. Hein, nous l'avons lu dans le psaume 25, vous vous souvenez? Hein, c'est pas tout le monde qui est reçu dans le conseil, c'est ceux qui ont un cœur droit. Alors, il voulait tout cela pour pouvoir se manifester comme sauveur. Si Dieu n'est pas sauveur, il lui manque quelque chose et il n'est donc pas parfait. Il a toujours été sauveur en lui-même, mais il fallait qu'il le manifeste. Donc, il était nécessaire qu'un moyen de rédemption soit prévu. Et il a été discuté. Et dans le conseil divin, il a été prévu comment Dieu nous rachetait. Et chacun y a été de sa petite idée, de comment est-ce que, bon, l'homme allait tomber, et comment est-ce qu'il allait pouvoir être racheté. Et finalement, c'est l'idée de Dieu lui-même qui a été reçue. Il a dit, eh bien, j'irai moi-même. Jésus sur la terre, c'était Emmanuel, c'était Dieu avec nous. Dieu n'est pas un monstre qui a envoyé son fils pour payer. Non. Jésus, la Bible dans Ésaïe nous est dit, il sera appelé prince de la paix, père éternel. Il est notre Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu et son nom est Jésus. Amen. Et il est venu, lui, dans la chair. Il a dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. On l'a vu, c'est notre Dieu. Il est venu, lui, et il a payé, lui, ce que nous devions payer. C'est-à-dire, nous devions mourir à cause de nos péchés. Et il a décidé, je viendrai moi-même et je sacrifierai ma vie à votre place. Et alors, nous voilà de nouveau en position de fils de Dieu. Nous étions toujours fils de Dieu, mais nous n'étions pas en position. J'ai bien aimé l'autre jour, Dominique, il m'a donné un petit mot par écrit au sujet d'une réflexion qu'il s'est faite, parce que depuis quelque temps, nous avons un magnifique billard que nous avons reçu. Un ami de Mélodie et Eric nous ont offert un magnifique billard, Napoléon, je ne sais pas combien, 3, je crois, et très beau. Et alors, les frères, quelques sœurs, jouent au billard de temps en temps le soir, et Dominique, il a demandé à jouer aussi. Et alors, la première chose, il me dit, la première chose qu'on m'a apprise, c'est, je crois que c'est Olivier qui l'a appris, il a dit, il faut que tu te mettes dans une certaine position. Tu peux pas tenir la queue du billard comme ça. Il faut la tenir d'une certaine manière, se positionner d'une certaine manière. Il avait tout ce qu'il fallait. Il avait le billard, il avait les boules, il avait la queue, il avait tout ce qu'il fallait. Mais la position est très importante. Quelle position, dans quelle position vous êtes? Est-ce que vous êtes un enfant de Dieu? Oui, mais quand on n'est pas... Le 1er juin 1968, à cette heure-là, j'étais un enfant de Dieu, mais j'étais pas dans la bonne position. J'étais dans le péché. Je me tenais pas bien devant mon Dieu. Et quand nous devons être dans la bonne position, la position de foi, la position d'amour. de fils de Dieu. Et voilà, cette chose est rétablie. Notre position a été rétablie. Maintenant, nous devons faire attention à de nous tenir bien. Hein, parce que, vous savez, des fois, on voit sur... L'autre jour, je regardais les photos qu'on a fait avec Dominique. Alors moi, je suis tout droit, comme ça. Et puis, les gens qui sont à côté de moi, ils sont tous penchés. Vous savez, on dirait un épi, ils sont tous penchés. Comme si, en se penchant un peu, ils allaient plus facilement rentrer dans l'objectif de l'appareil de photo. Vous avez déjà vu, la plupart des gens qui sont très rarement photographiés font ce truc-là. Ils font comme ça, de façon à ce que, voilà, on voudrait bien être sûr d'être dans l'objectif. Eh bien, ils sont pas dans une bonne position. La bonne position, c'est pas d'être comme ça, hein. Alors quand ils sont sur la photo, ils sont tous penchés comme ça. Non, il faut être droit. Et nous devons être dans la bonne position avec Jésus-Christ. Il peut nous arriver, des fois dans la vie chrétienne, de perdre notre position, de se tenir mal ou de se tenir dans un endroit où on ne doit pas être. Nous sommes nés perdus, mais nous sommes nés de nouveau sauvés. Maintenant à nous de continuer, comme il nous dit, hein, l'apôtre Pierre, de continuer. Maintenant, par le Saint-Esprit qui est en nous, Dieu en nous, nous pouvons faire amende honorable et nous pouvons parvenir en nous soumettant à la foi qui a été rétablie, au salut et à la gloire pour le monde futur. Nous pouvons entrer dans ce système. Nous devons entrer dans ce système. Beaucoup trop de chrétiens sont faussement humbles, ont mal compris ce que c'est que l'humilité. Nous sommes des fils de Dieu. Et si nous nous soumettons à la foi qui est rétablie, c'est en vue de la gloire à venir. C'est pas en vue de recevoir des coups ou d'avoir que des problèmes. Alors les coups, les problèmes, les difficultés, c'est maintenant, mais c'est une petite parenthèse dans l'éternité. Alors nous, bien sûr, ça semble long, mais c'est rien. Il faut s'en assurer. L'apôtre Paul nous dit, c'est rien à côté de la gloire à venir. Alors réjouissons-nous de la gloire à venir, et puis ne nous laissons pas attrister outre mesure. Gardons notre position. Bien droite, bien fière d'être enfant de Dieu. La foi, mes frères et sœurs, elle a été rétablie. Parce que dans notre passé éternel, nous avions la foi. Dans le sens que nous avions une confiance totale en Dieu. Quand le conseil s'est réuni et qu'il a été décidé ceci et cela, nous avons eu confiance en Dieu. Nous avions foi en Dieu. Nous savions que c'est Dieu qui avait raison. Par contre, il y avait certains esprits, un tiers des esprits, qui n'a pas eu foi en Dieu. Et cela les a fait tomber dans la non-présence de Dieu, ce qu'on appelle les ténèbres, puisque Dieu est lumière, ils ont été chassés de la présence de Dieu, ils sont dans les ténèbres. Le manque de foi, le manque de confiance, voilà ce que ça vous fait, ça vous met dans les ténèbres. Alors déjà que vous avez un problème, alors en plus, vous rajoutez là-dessus une couche de crème de non-foi, eh ben, vous êtes plus dans les ténèbres que dans les ténèbres. Parce que quand on a un problème, il nous semble qu'on est dans les ténèbres, mais tant qu'on a la foi encore, ben, ça va. Mais alors, si vous rajoutez vous-même un manque de foi, ben, vous êtes foutu. Mais c'est stupide. C'est stupide. Aïe, aïe, aïe. Ces esprits rebelles, ils continuent à se rebeller. Parce que quand on a mis le doigt dans l'engrenage, c'est très difficile d'en sortir. Pour en sortir, il faut faire waouh! C'est vrai. Ils sont hypnotisés. Ouais, moi, confiant. Ah, oui, mais je sais bien que de toute façon, ça a toujours été comme ça dans ma vie. Je suis né sous une mauvaise étoile. Et moi, oui, je suis vraiment malade. Oh, je suis mal foutu, ça va pas, il n'y a rien qui me réussit. C'est épouvantable.
Oui.
Secoue-toi là, oh! Allez, on va tous se mettre debout et on va se secouer. Non mais, rappelez-vous la prochaine fois que vous vous sentez commencer à glisser dans les ténèbres, vous faites... Les gens vont dire, au milieu de la rue, qu'est-ce qu'il a, c'est grave, hein, mais dans quel temps nous vivons, ma pauvre dame? Asseyez-vous. Ils continuent à ne pas croire en Dieu. Ils continuent à mettre en doute ce que Dieu dit. Nous, par nos actes, parce que nous sommes nés de nouveau, de par notre nouvelle naissance, nous montrons que nous avons la foi. C'est par nos actes, par nos paroles, par nos actes. Il est naturel pour nous de croire en Dieu. C'est contre nature pour un enfant de ne pas croire en Dieu. C'est un péché contre nature. C'est naturel de croire en Dieu. Et si vous commencez à décliner, alors ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous, affermissez vos genoux languissants là-haut. Mettez-vous dans la prière, jeûnez s'il faut, mais secouez-vous, ne restez pas comme ça dans cette torpeur. Et nous sommes là, sur cette terre, qui est habitée, qui est infestée par des esprits rebelles qui se sont incarnés eux aussi pour beaucoup. Et nous sommes ceux dont parle la parabole du bon grain et de livrer le bon grain. Jésus est clair, il dit c'est les fils de Dieu, et livrer c'est qui? C'est les fils du diable. Ces deux-là étaient dans la présence de Dieu, étaient tous des fils de Dieu. Mais il y en a qui ont choisi de suivre le diable, et en cela ils sont fils du diable. Et le temps passe, le temps passe, le temps passe, et le conseil divin continue de se rassembler. J'y étais cette nuit. Vous voyez, les serviteurs de Dieu, les anges qui viennent de Dieu, ils sont en train de demander « Veux-tu que nous allions arracher l'ivraie ?» Et le Père dit « Non !» Ah ben pourquoi alors? Ça serait tellement plus facile, il viendrait arracher l'ivraie tout de suite, on serait débarrassé, hein, mon frère Arthur. Ben non, Dieu veut pas. Hein, quand je vous disais, Dieu ne veut pas que vous soyez complètement saint, Dieu ne veut pas, ça ne veut pas dire qu'il veut que vous péchiez, mais il veut que toute la gloire lui revienne à lui. C'est lui le plus grand, c'est lui le plus fort, et on le glorifie. Et quand ça va pas, eh ben, quand on tombe, on se relève, et là encore, il trouve moyen de se glorifier. Dieu est grand, et il dit, non, faut pas arracher l'ivraie, pas tout de suite. N'arrachez pas l'ivraie. Si vous arrachez l'ivraie, vous allez risquer d'arracher le bon grain avec. Attention. Alors les anges sont outrés. Ils sont outrés de voir comment se comporte l'ivraie sur la terre. Ils sont outrés. Ils voudraient mettre fin à ça. Mais ils ne le font pas parce que ils sont soumis. Et nous devons être nous aussi soumis, même si c'est difficile, même si c'est un outrage. C'est pas possible. Leur intention, elle est bonne. Mais elle mettrait le blé en danger. Alors ils sont soumis. Ils voient nos souffrances, les anges. Il y en a qui sont là, tout près de nous, ils nous entourent, ils voudraient nous toucher. Il suffirait qu'ils nous touchent, hop, ça y est, ça serait. Mais non, Dieu dit non. Alors maintenant, là, tout de suite, aujourd'hui, nous en sommes où? Le blé est presque mûr. L'ivraie, elle est mûre, elle est bien épanouie. Elle s'étale, elle se montre, c'est incroyable. Dieu est en train de rétablir toutes choses et les siens sont de plus en plus reconnaissables. Mais ceux du diable aussi sont de plus en plus reconnaissables. Et les anges sont en train de piétiner dans le ciel. Ils disent, Seigneur, ça y est, c'est bon, c'est le moment, là, on y va. Hein? Non, pas encore. Oh Seigneur, on peut pas se tromper, maintenant on les reconnaît. Mais on les reconnaît. Oui, je sais, mais attendez encore. Le blé n'est plus une petite pousse tendre. Les anges reconnaissent le blé, c'est pas des malades, ils savent bien. Laisse-nous aller arracher cette saloperie, laisse-nous aller arracher. Seigneur, regarde ce que l'ivraie fait à ton peuple. Ce que les anges pensent, c'est ce que je pense moi aussi. Est-ce que vous pensez la même chose quand vous voyez que nos frères et sœurs chrétiens sont massacrés dans le monde? Est-ce que vous pensez ça? Mais Seigneur, mais fous-moi en l'air cette racaille. C'est comme ça que les anges pensent. Eh ben moi je pense la même chose. Je suis en accord avec la volonté de Dieu. Et je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais quand ça sera fait, croyez-moi, nous allons nous réjouir. On ne va pas pleurer en disant, oh les pauvres. Non, c'est une race impure. Quand la Marseillaise, terrible ce chant. Mais il y a réellement un sang impur, un sang mélangé avec ces néphilim, tous ces démons. Il y a des puissances, on n'imagine pas. Si vous pouviez voir les démons à la place de voir les gens, si vous pouviez voir leur esprit à la place de voir leur chair, vous seriez effrayé, c'est pire qu'un film d'horreur. Seigneur, regarde ce que fait l'ivraie. Elle massacre les tiens comme jamais auparavant. Laisse-nous descendre et arracher cette racaille. La Bible nous dit dans les derniers versets de la Bible que l'Esprit, le Saint-Esprit et l'Épouse, pas l'Église, l'Épouse, disent « Viens Seigneur Jésus ». Pourquoi? Oh, pour qu'on puisse aller aux noces pour manger le poisson avec Jésus. Alléluia, je vous ai demandé un autographe à Abraham. Mais non! Viens Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y en a marre de cette horde sur cette terre. Voilà pourquoi on soupire après le retour de Jésus. Amen. Hey. Dieu attend encore. Pourquoi? David déjà disait, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Mes frères et sœurs, la situation présente décrite dans cette parabole enseigne une leçon capitale. La patience et la longanimité sont des attributs divins. Si Dieu n'était pas patient, il ne serait pas Dieu. Il lui manquerait quelque chose. Et en observant la patience de Dieu, cela éveille dans le cœur de ses enfants, qui sont d'origine divine, un saint désir, lequel je dois cultiver la patience. Je dois cultiver la patience. Il faut que je sois comme il est, tel nous sommes dans ce monde, nous dit la Bible. Patient. Je sais que c'est des fois intolérable. Il faut être patient. Alors soyons patients. Ça finira bien un jour. L'ivraie, c'est une herbe nocive. Le diable a semé ça sur la terre. C'est un acte méchant. C'est un acte de méchante foi. C'est un acte de mauvaise foi. Et l'ivraie manifeste de plus en plus les attributs, le caractère de son père, c'est-à-dire la mauvaise foi, la foi pour faire le mal. Même quand ils veulent faire le bien, ça tourne en mal. Ils inventent des trucs extraordinaires, et plutôt que ce soit la médecine qui s'en serve, eh bien, c'est l'armée. Mais le temps vient où Dieu séparera le blé de l'ivraie. Ça, c'est une certitude. Et l'ivraie vénéneuse sera brûlée. Pourquoi elle sera brûlée? Pour qu'elle ne puisse plus se reproduire. Mais non, on ne sera pas brûlé. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alléluia, pour ceux qui comprennent. Nous nous reproduirons encore, et cela jusque dans l'éternité. Dieu est le Dieu des familles, mes frères et sœurs. Les anges sont constamment devant le trône de Dieu. Seigneur, la coupe est pleine. Laisse-nous y aller. Laisse-nous y aller. Et le jour vient où Dieu dira, allez. Et maintenant, rassemblez premièrement le blé dans mes greniers, puis ensuite brûlez l'ivraie, brûlez-la. Dieu, maintenant, est en train de rassembler, justement, les siens. Et nous sommes ici, modestement, le signe de ce rassemblement. Dieu est en train de rassembler les siens. Mes frères et sœurs, dans Marc 4, 6, Dieu nous donne un indice. Ça va, ça vous intéresse ce que je vous dis là ce matin? Marc 4, 6. 4:26, pardon. Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève. La semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le blé plein d'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Aucun document ne nous dit que les disciples ont demandé l'interprétation de cette parabole. Que signifie-t-elle, mes frères et sœurs? Elle illustre la vitalité de la semence de vérité. Voilà ce qu'elle illustre. Tout le processus de votre croissance personnelle, c'est un secret. Il continue à être un mystère pour tous, c'est quelque chose d'étrange. Sauf pour Dieu. La croissance de son Église, c'est un secret, un mystère pour tous, sauf pour Dieu. Dieu sait. Vous voyez, quand un homme jette la semence dans son champ, ben il la laisse à elle-même. Il ne va pas de temps en temps ouvrir la terre pour voir ce que ça donne. Il peut l'arroser, il peut la protéger du mieux qu'il peut, mais bon, la croissance elle-même, elle dépend des conditions et des forces qu'il n'est pas en son pouvoir de contrôler. Le semeur, il peut s'occuper d'autres choses, il peut faire des tas d'autres choses, parce que le champ ne réclame pas son attention constante et exclusive. Non, il laisse faire. Alors il y a des influences, celles du soleil, celles de la pluie, de la brise, de la rosée, tout ça. Et la pousse, elle se développe, et puis l'épi, et puis le grain. Mais le grain, en ce moment, je le vois, mes frères et sœurs, comme disait le prophète Branham, c'est vrai, c'est un beau grain, mais il y a encore la balle. Et Jésus est en train de revenir, et là, schlac, avec son vent à la main, il va nous secouer pour enlever la balle. Et lorsque le grain est mûr, l'homme est heureux, il moissonne sa récolte. Dans cette parabole, Dieu est toujours le semeur. Mais les influences bénéfiques viennent des prédicateurs, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi il est nécessaire que vous ayez confiance en Dieu, mais aussi dans ses serviteurs. Les prédicateurs, ils apportent la parole de vie qui font mûrir la pousse. C'est la vie, ce n'est pas le prédicateur qui apporte la vie, mais c'est
Le prédicateur apporte la parole de vie qui fait, c'est ça qui fait mûrir. Le prédicateur s'occupe des devoirs dont ils sont chargés dans toutes sortes de domaines, pas simplement de prêcher, mais d'apporter la parole dans toutes les situations. Il prie, il invite à la prière, il exhorte, il console, il reprend, il émonde, il met du fumier, enfin il a du boulot. Moi, quand j'étais jeune, à 2 ans, il paraît que j'ai dit à ma mère que je voulais être pasteur parce qu'il travaillait que le dimanche. Mon Dieu. Tout cela, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, mais il ne la fait pas tout seul. Il utilise ses serviteurs. Vous n'écoutez pas ses serviteurs, vous n'écoutez pas Dieu. Vous voulez avoir la foi, vous ne devez pas avoir la foi seulement en Dieu, mais aussi dans ses serviteurs. Si vous n'avez pas la foi dans les serviteurs, vous n'avez pas la foi en Dieu. Si le ministre de la parole craint Dieu, son esprit est reçu dans le conseil de Dieu, comme je vous le disais vendredi. S'il ne craint pas Dieu, mais ça va se voir à ses fruits. Et là, le serviteur de Dieu, il entend les secrets, il les révèle, parce que quand il se réveille le matin, il est capable de les révéler. Il est prêt à parler des divers points de l'Alliance qui sont en tout point bien réglés et qui offrent une pleine sécurité. Pas seulement une sécurité pour votre salut personnel, mais celui de votre famille. Votre famille, pas seulement votre fils, votre fille, votre cousin, votre oncle, votre tante et tout, mais ça représente des milliers et des milliers et des milliers de personnes. Parce qu'en fait, on est tous de la même famille. Et lorsque vous faites le baptême à la place des morts, qu'est-ce que vous faites? Vous vous occupez de votre famille. Même si la personne pour laquelle vous faites baptiser s'appelle Cunégonde Schlonk, c'est pas ma famille, si. Bien sûr qu'elle est ta famille. T'es humain ou t'es quoi? Ah, si t'es un néphilim, alors évidemment. C'est Dieu qui fait croître, mais il ne le fait pas tout seul. Il le fait en collaboration avec ses serviteurs qui dispensent la parole de vie. La parole de vie, c'est une semence qui donnera l'arbre de vie. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir foi en Dieu et dans ses serviteurs, comme le dit 2 Chroniques 20:20. Au début de notre communauté, on était très croyants dans ce verset. Et puis on a commencé à en rire. Vous vous rappelez comment? Moi je me rappelle. Il est temps de ne pas rire de la parole de Dieu. La semence germe, elle croit, sans qu'on sache comment. La terre produit d'elle-même. Et c'est quoi la terre? C'est l'Église. C'est là où vous avez été planté. C'est l'Église. Là où sont les fils de Dieu. Le champ. Ou la vigne. Dès le début, ça a été comme ça. Paul y plantait de la part de Dieu. Apollos y arrosait de la part de Dieu. Mais Dieu seul pouvait faire croître. N'est-ce pas la vérité? Mais c'était au travers de ses serviteurs. Quand Paul partait en mission, il savait très bien qu'il n'y avait pas à se soucier, parce que ce qu'il avait planté était capable de pousser tout seul. Mais Paul se faisait du souci. Et quel serviteur de Dieu ne se fait pas du souci pour son Église? Et moi, je crois que l'écharde que Paul avait dans sa chair, c'était tous les soucis qui lui occasionnaient l'Église. Ben, c'est un petit manque de foi qu'il avait l'apôtre Paul. Moi, je ne crois pas qu'on peut appeler ça un manque de foi. Je crois que c'était un perfectionniste. Je crois que c'était un homme qui avait à cœur ce qu'il était en train de faire et puis il prenait un petit peu trop sur lui-même, mais qui peut lui jeter la pierre. Un véritable serviteur de Dieu, il est comme ça. Quand Apollos s'occupait d'évangéliser ailleurs, ben, il ne se faisait pas trop de soucis au sujet de ce qu'il avait arrosé. Dieu tient toutes choses dans ses mains et c'est lui seul qui a le pouvoir de faire croître. N'oubliez jamais ça. Ni pour vous, ni pour les autres. Vous voyez un frère, une sœur qui est un peu bancal. Moi, en ce moment, j'ai un rosier qui est comme ça. Là. Bon, ben, est-ce que je peux faire 2-3 petits trucs pour lui? Mais c'est quand même Dieu qui détient la vie. Qu'est-ce que je vais me faire comme souci? Ben, quand vous voyez un petit frère ou une petite sœur qui se tient un peu bancal, ayez confiance que Dieu est celui qui peut le fortifier. Qui es-tu, toi, qui juge? Celui qui est tombé même, Dieu a le pouvoir de le relever. Amen. Paul et Apollos et tous les autres prédicateurs savent qu'ils trouveraient leur récompense quand la moisson aura lieu. Et la moisson a bientôt lieu, c'est bientôt fini. Rien n'est plus important. Gardons notre regard sur le but. Le but, c'est cette moisson extraordinaire. Ayons donc foi. Ayons foi en Dieu, ayons foi dans ses plans. Agissons selon sa parole qui est écrite. Agissons selon sa parole qui est rétablie, qui est inspirée. Agissons selon sa parole réellement, non pas selon la parole qui est donnée par des dénominations humaines. L'autre jour, une dame mormone là-bas à Salt Lake City avec Dominique, elle essayait de nous faire comprendre que c'était eux la véritable église. Ils sont tous pareils, toutes les églises nous disent ça. Alors, je disais, mais qu'est-ce que je vais apporter de plus à votre église si je deviens mormon? Et vous, qu'est-ce que vous allez m'apporter de plus? Faisons le bilan. Je suis sauvé comme vous, par la foi. Je suis baptisé comme vous, au nom du Seigneur Jésus-Christ, par immersion. Je parle en langue comme vous. Je prie pour les malades comme vous. Je fais le lavage des pieds comme vous. Je crois dans le baptême pour les morts comme vous. Je crois dans les mariages éternels comme vous. Et je vis en communauté. Ah, pas comme vous par contre. Et pourtant, votre prophète vous a dit que vous deviez vivre en communauté. Au moins 4-5 fois dans le livre de Mormon, c'est écrit que les véritables chrétiens doivent vivre en communauté. J'ai dit, nous le faisons. Qui doit rejoindre l'autre? Qui doit rejoindre l'autre? Nous savons qui nous sommes, nous savons où nous sommes, mes frères et sœurs. Restons là où Dieu nous a placés. Soyons fidèles, soyons sérieux, soyons conséquents. Le blé a été semé parfait et sera récolté parfait. La tige ne sera pas récoltée, les feuilles ne seront pas récoltées, la balle même ne sera pas récoltée. Seul le grain rétabli et multiplié sera récolté. Amen. Et il y a des niveaux de gloire. Comme je vous ai enseigné, il y a 3 niveaux de gloire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ceux qui vivront en communauté qui seront sauvés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ceux qui parlent en langue qui seront sauvés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ceux qui sont baptisés d'une certaine manière qui sont sauvés. Non, il y a des niveaux de gloire, vous vous rappelez. Alors réfléchissez à ces choses devant Dieu, sur vos genoux. Entrez dans votre position, manifestez ce que vous êtes, manifestez votre potentialité. C'est ce que Dieu n'arrête pas de faire. Il manifeste ce qu'il est à l'intérieur, il le manifeste dans sa création. Eh bien nous, c'est la même chose. Nous avons des choses à l'intérieur, nous devons les manifester. J'ai commencé la première fois à dire ça, un jour quand j'ai dit à quelqu'un, t'es heureux? Il me dit oui. Je dis, mais alors montre-le ton sourire, parce que si tu souris à l'intérieur, ça fait de bien à personne. Il faut manifester notre joie, manifester ce que nous avons en nous. Comme Dieu manifeste ce qu'il est, manifestons ce que nous sommes par la puissance du Saint-Esprit qui vient en nous. Amen. Merci Jésus de bénir mes frères et sœurs, qu'ils se relèvent, qu'ils se secouent, qu'ils se mettent vraiment dans leur position et qu'ils rentrent dans ce plan merveilleux avec conscience, sachant que c'est ta volonté. Que des fois c'est difficile, même les anges trouvent que c'est difficile, même les anges trouvent que c'est long, même les anges sont impatients. Alors nous aussi, on peut de temps en temps avoir un peu des mouvements d'impatience, mais Seigneur Dieu, tu nous pardonnes et tu nous remets dans le droit chemin, tu nous permets de marcher jusqu'au bout avec toute cette potentialité que tu as mis en nous pour que ton nom soit glorifié. Merci Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.